Bah écoutez, en fait, les intergroupes, hein, c'est des groupements qui sont un petit peu semi-officiels, hein, de députés de différentes nationalités, de différents partis politiques sur une thématique particulière quand ils ont un intérêt en commun. Donc clairement, l'intergroupe qui s'appelle en réalité Minorité nationale, Communauté nationale et langue, qui d'ailleurs est coprésidé par Monsieur François Alfonsi, hein, je tiens à le rappeler, a pour but d'accroître la sensibilisation aux problèmes des minorités nationales et linguistiques. Notre rôle, c'est aussi bien évidemment d'informer les membres de la commission et nous avons bien entendu un objectif, j'allais dire, à plus long terme, qui est d'initier une législation européenne pour permettre de renforcer la protection des minorités. Donc, étant moi-même du Sud-Ouest, hein, bon, il m'a semblé tout à fait naturel, logique, de participer à cet intergroupe. Aujourd'hui, on parle de l'occitan, mais vous savez que dans notre région, beaucoup de locuteurs parlent aussi catalan ou basque.
Oui, alors justement, vous l'avez dit, des gens de plusieurs groupes politiques. Alors, quel groupe on peut retrouver? Parce que bon, vous-même, vous êtes élu Europe Écologie Les Verts. On sait que votre parti est plutôt sensible et favorable à la reconnaissance des langues et cultures minoritaires. Ce n'est malheureusement pas le cas dans tous les partis. Donc, qui c'est qu'on trouve autour de cet intergroupe?
Vous savez, les réalités sont différentes selon les pays. C'est-à-dire que si en France, évidemment, avec une situation très jacobine, hein, nous sommes un petit peu minoritaires sur ces questions de langue, dans d'autres pays, ce n'est pas nécessairement le cas. Par exemple, le groupe est coprésidé par un socialiste qui s'appelle Zaba Tabadji. Nous avons aussi quelqu'un du PPE qui est de Scandinavie. Nous avons donc, vous voyez, l'ensemble des partis politiques en réalité est représenté, pas en ce qui concerne la France, je le déplore, mais dans les autres pays européens. On a des représentants par exemple du groupe libéral, il y a un représentant de la minorité suédoise en Finlande. Donc vous voyez qu'on arrive quand même à recouper un peu le spectre politique. Encore une fois, pour ce qui concerne la France, je suis la seule, avec François Alfonsi évidemment, qui lui représente Région et Peuple Solidaire, à être présente et active dans cet intergroupe.
D'accord. Alors concrètement, la journée du 22 novembre, comment elle va se dérouler?
Alors, bah écoutez, d'abord dans la joie et la bonne humeur, si j'ose dire, pour la petite histoire, elle va se commencer la veille dans une Winstube, c'est-à-dire en réalité un petit restaurant typiquement alsacien où on parle alsacien, parce que finalement c'est intéressant de voir aussi les passerelles entre nos différentes langues régionales en France. Ensuite, notre groupe, qui va être assez nombreux, hein, avec beaucoup de représentants officiels, on y reviendra peut-être, de tous les organismes qui traitent un peu de la question de l'Occitan, vont se retrouver au Parlement européen. On aura un temps d'échange sur ce qu'est le mandat européen et notamment comment s'inscrit cette question de notre appartenance à des intergroupes. Et puis, il y aura donc l'intergroupe lui-même qui sera pour l'essentiel consacré à la question de l'Occitan. Donc, avec, je le rappelle encore une fois, l'idée étant de voir comment on peut faire progresser la prise de conscience, la connaissance de cette culture fondamentale, hein, qu'est l'Occitan au niveau européen. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que l'Union européenne, qui, je le rappelle, a des textes formidables en ce qui concerne les grands principes, puisse faire pression sur notre État, qui lui-même est totalement en contradiction sur ces questions-là. Voilà, donc, et puis bien sûr, il y aura bien évidemment ensuite une visite tout à fait officielle du Parlement européen, faite par des fonctionnaires attitrés. Et enfin, mon groupe pourra assister dans l'hémicycle au temps des votes. Donc, c'est assez intéressant. Je pense que ça permet, si vous voulez, à des personnes qui viennent de nos eurorégions, à des citoyens, de voir comment fonctionnent vraiment les instances européennes. Et puis, en ce qui me concerne, moi, j'essaie toujours d'avoir des groupes qui viennent sur une thématique précise, pour voir comment est traitée leur thématique au sein de cette grande machine européenne. Voilà un petit peu l'objectif de la journée.
Alors justement, cette grande machine européenne, on la connaît très peu. Très souvent, on a l'impression qu'elle sert d'excuse à nos dirigeants d'État pour dire « Non, mais attendez, là, il y a une loi qui va pas, mais c'est pas nous, c'est l'Europe. » Concrètement, l'Europe, comment elle peut faire bouger les choses ?
Alors moi j'aime beaucoup le mot que vous avez utilisé, le mot d'excuse, hein, parce que voilà, toute la difficulté est là. Je rappelais tout à l'heure où j'évoquais le fait que en ce qui concerne donc les langues régionales, il y a des grands textes européens. Hein, bon, je peux les rappeler, hein, il y a les critères de Copenhague en 93. Il y a le traité de Lisbonne, hein, qui rappelle qu'il faut, dans son article 2, l'Union respecte la richesse, la diversité culturelle et linguistique. Il y a la charte des droits fondamentaux de l'Union, avec un article 21 basé sur la non-discrimination. Alors là, je fais peut-être pas toutes l'énumération de toutes les choses, mais le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques, sociales, etc., et la langue, notamment. Hein. Donc, en réalité, l'enjeu pour nous, c'est que l'Union européenne, avec ses grands principes, puisse faire pression sur ses États membres pour qu'elle applique ses principes. C'est pas facile ou évident, parce que, si vous voulez, dans un certain nombre de domaines, c'est la compétence des États nationaux qui s'applique. Et c'est le cas pour la protection des droits des minorités, dans lequel évidemment rentre la question des langues. Voilà. Donc le rôle, si vous voulez, de l'Union européenne dans cette affaire, ben c'est déjà un exemple formidable de tout ce qui se passe dans les autres pays, parce que on est dans des situations très très différentes dans les autres pays. On a une inégalité de traitement entre des citoyens de l'Union européenne en ce qui concerne les langues, puisque bon, vous le savez, hein, on a 23 langues officielles, certes, mais on a tout un tas de langues semi-officielles, c'est-à-dire que les citoyens peuvent s'adresser à l'institution dans ces langues semi-officielles, avec le catalan, le basque, le galicien, le gallois, le gallique d'Écosse, donc vous voyez des langues, quand on regarde de près, les langues qui ne sont pas classées au titre de langue semi-officielle, c'est le breton, c'est le corse, c'est le créole et c'est l'occitan, c'est-à-dire les langues de France en réalité. Voilà.
D'accord. Alors justement, tiens, petite question. D'un point de vue des critères d'entrée dans l'Union européenne et du point de vue du traitement infligé aux langues et aux cultures minoritaires en France, si la France n'était pas membre de l'Union européenne et qu'elle venait à postuler pour y rentrer, est-ce qu'elle serait dans les clous? Est-ce qu'elle rentrerait dans les critères?
Ah ben non, ça serait parfait. Voilà. C'est-à-dire que c'est exactement ça la question des critères de Copenhague, hein, qui est le respect du droit des minorités pour les pays qui intègrent l'Union européenne. Mais, et voilà, vous avez bien pointé du doigt les choses, ça ne concerne pas les pays déjà membres. Donc vous voyez qu'on est dans une contradiction totale que bien évidemment je ne cesse de dénoncer. Et puis, bon, voilà.
Alors justement, vous dites l'idée c'est arriver à faire pression avec l'Union européenne sur les États membres. Concrètement, comment cela est possible? On le voit justement, vous citiez par exemple la charte. Même si la charte elle revient un peu sur le devant de la scène ces temps-ci et qu'on parle d'une possible ratification sans toutefois s'avancer sur une date ou sur... Concrètement, la France n'a pas ratifié la charte. Qu'est-ce que l'Europe peut... À quel point l'Europe peut-elle faire pression, avec quels outils, sur un de ses États membres pour la reconnaissance des minorités?
Alors, déjà, vous nous dites qu'on parle d'une possible ratification de la charte. Moi, je tiens à rappeler à nos auditeurs que, en ce qui me concerne, c'est pas impossible, mais c'est une ratification qui est due, puisque notre président actuel, François Hollande, pendant sa campagne présidentielle, s'est engagé à ratifier cette charte. Donc, nous attendons qu'il remplisse sa promesse. Je lui ai d'ailleurs, avec certains collègues, écrit en juin 2012 pour lui rappeler son engagement de ratifier cette charte. Alors, l'Union européenne, quand même, on a pas mal d'outils qui sont en réalité les questions que nous, députés, déposant pour interpeller la Commission ou le Conseil quand des textes européens nous semblent bafoués. Donc moi, j'ai utilisé évidemment cet outil à de nombreuses reprises, hein, dans des cas où, comme par exemple sur le, vous savez, l'affaire de Villeneuve-les-Maglones, ou pour en fait le fait qu'il y ait une inégalité de traitement entre les langues régionales entre l'Espagne et la France. Ou pour demander des précisions sur les financements de programmes qui sont des programmes d'éducation qui peuvent être financés dans certains pays en Occident, par exemple en Espagne, mais pas en France. Donc on utilise tous ces outils-là, et même si à chaque fois finalement la Commission botte en touche, c'est sûr qu'il y a des retombées, il y a une pression qui est faite sur notre État. Moi, je crois en la mobilisation à la fois citoyenne, comme on l'a vu à Villeneuve-les-Maglones, doublée d'une action dans l'institution. Et je crois qu'on va finir par y arriver.
Alors justement, on est à l'échelle européenne. À l'échelle européenne, on le sait, de l'autre côté des Pyrénées, il y a les collègues catalans qui font pression pour peut-être accéder à l'indépendance. Est-ce que justement, au niveau européen, tout ça, ça peut pas faire peur au niveau des minorités en se disant, aïe, si on leur donne plus de droits, ça y est, les Occitans vont vouloir une Occitanie, les Bretons une Bretagne?
Alors, je vais retourner les choses dans l'autre sens. Vous voyez, il y a 15 ans en arrière, en Catalogne, je ne vais pas dire personne, mais les gens qui étaient en faveur de l'indépendance étaient finalement très minoritaires. Beaucoup étaient pour une autonomie, mais pas pour l'indépendance. Et finalement, vous voyez comment cette question aussi des langues est importante. C'est à force d'avoir, j'allais dire, une série de pans sur le bec ou de fins de non-recevoir, notamment par exemple la possibilité d'utiliser leur langue ici au Parlement ou des choses comme ça, que les gens se radicalisent. Hein. Donc en réalité, on voit bien que dans les États où les choses sont appréhendées de manière ouverte, de manière respectueuse, je pense à l'exemplarité de la Finlande dans le traitement de sa minorité suédoise. Bon, j'ai pas vu qu'il y avait une revendication de la minorité suédoise de faire cession de la Finlande. Hein. Là, on est sur des questions qui sont un peu différentes de collectivité territoriale. Donc, voilà. Moi, je pense pas qu'il y ait une peur. Je pense plutôt qu'il y a en France une attitude profondément ancrée dans le jacobinisme. Si je voulais donner un exemple qui est très éloigné des langues, vous regardez le plan de la SNCF. Avec ce plan en étoile où tout converge vers une capitale et tout part de cette capitale, comme si en réalité tout flux ne pouvait être que dans ce sens-là. Ça résume c'est assez bien finalement le pourquoi aussi les différences régionales, qui sont pourtant la richesse de notre pays, sont si mal prises en compte.
Justement, est-ce que ça serait pas une occasion aussi de renforcer auprès du citoyen le rôle et l'importance de l'euro-région? Parce que bon, l'euro-région, on est quelques-uns à savoir que ça existe, à s'y intéresser, mais c'est vrai que si on prend le Pékin lambda dans la rue, il sait qu'il est en Midi-Pyrénées, ici à Toulouse, il sait qu'il est en Haute-Garonne, mais il sait pas forcément qu'il est dans l'euro-région Pyrénées-Méditerranée.
Alors, vous voyez, d'ailleurs, votre question, elle est vraiment, j'allais dire, intéressante, parce que vous avez évoqué l'euro-région Pyrénées-Méditerranée, qui est une région qui a un sens. Hein. Mais vous voyez bien que quand on parle d'euro-région au niveau du système administratif français, et notamment du système qui a été mis en place pour les élections européennes, c'est pas la même chose. C'est en réalité l'euro-région. Dans le système administratif français, c'est Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Donc, effectivement, auprès des citoyens, on est encore dans un flou. On n'est pas sur des régions qui sont basées sur des réalités de culture ou de territoire. On est sur des régions administratives qui ont peu de sens, en fait, hein.
D'accord. Alors, un autre des arguments des anti, justement, c'est on est en période de crise, l'Europe manque d'argent et tout ça. Mettre des langues officielles en plus, ça veut dire laisser à des citoyens le droit de s'exprimer dans leur langue, donc prévoir des traducteurs en plus, prévoir des traductions de papiers officiels en plus, donc un surcoût supplémentaire. Qu'est-ce que vous répondriez, vous, à cet argument-là?
Alors, c'est pas tout à fait exact, parce que si vous voulez, quand on regarde la catégorie des langues co-officielles ou semi-officielles, c'est des langues qui permettent aux citoyens qu'ils souhaitent de s'adresser à l'institution dans cette langue. En clair, si un Gallois veut envoyer une pétition en Gallois à l'Union européenne, il peut le faire. Mais ce ne sont pas des langues qui entraînent une interprétation ou des interprètes ou des traducteurs en plus. Hein, il n'y a pas d'interprète en catalan dans les cabines. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment un coût énorme, quoi. Puis bon, c'est pas un argument qui me semble très 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 recevable. Si vous voulez parler du coût de la machine de l'Union européenne, parlons des deux sièges du Parlement européen. Bon, avec ça, on peut faire suffisamment d'économies pour permettre aux différents citoyens de s'exprimer dans leur langue.
Justement, vous êtes pessimiste ou optimiste par rapport à l'avenir, non seulement de l'occitan, mais aussi des autres langues et cultures minorisées et minoritaires de l'État français?
Ben, moi, je suis optimiste. D'abord parce que je suis optimiste de nature, et puis ensuite parce que, si vous voulez, c'est le sens quand même, pour le coup, de l'histoire. C'est vrai que si l'État français continue à ne pas prendre en compte cette question des langues, on va vers petit à petit une disparition de la langue. La langue occitane est parlée par plusieurs millions de personnes. Si on considère la partie de la Catalogne, le Val d'Aran et puis surtout le Piémont de l'Ouest, mais il y a plus qu'un million de personnes en France et le chiffre va en se réduisant. Mais je suis quand même optimiste. Bah, d'abord parce qu'on a quand même un engagement de notre président de la République, je le rappelle. Donc s'il tient son engagement, la question va être sérieusement débloquée. Et d'ailleurs, nous envisageons avec deux de mes collègues, un qui défend le créole puisqu'il est représentant de Guadeloupe et puis donc Jean-Jacques Bissep et puis mon autre collègue François Alfonsi qui lui représente Région et Peuple Solidaire qui est Corse, on envisage d'ailleurs de demander une entrevue tous les trois au président de la République pour lui rappeler son engagement.
Alors justement, et ça sera ma dernière question, on le sent, votre engagement à ce niveau-là, Catherine Grèze, est sincère. C'est pas juste vous êtes réveillé un matin, vous êtes dit tiens, on parle pas des patois si on en faisait parler. Donc juste une journée comme ça, je pense qu'au sens de votre engagement, ça aurait pas de sens. Donc est-ce que vous avez déjà des choses de prévues pour un après 22 novembre?
Alors, d'abord sur la sincérité de mon engagement, je m'appelle Grèze quand même, hein, donc si vous connaissez un peu la langue, c'est un nom vraiment occitan, c'est un nom qu'on retrouve dans toute la toponymie de notre région, donc c'est vrai que mes arrière-grands-parents, même s'ils ont dû à la veille de la Première Guerre mondiale pour des raisons économiques monter à Paris, moi je suis redescendue quelque part vers mes racines. Alors l'après 22, bah alors on a déjà nous évidemment j'évoquais la question d'aller demander une rencontre au président de la République, donc on a déjà quelques idées précises, mais l'idée elle est bien justement d'avoir un débat avec les gens qui vont être présents, hein. Je rappelle qu'il va y avoir des représentants de la Confédération des Calandrettes, du Centre interrégional de développement de l'Occitan, hein, le CIRDOC, des conseillers régionaux, des représentants de la FELCO, qui est la Fédération des enseignants de langue et de culture occitane, le directeur de l'Institut d'études occitanes. Donc, vous voyez, plus tout un tas de représentants d'associations. Donc, on a là, j'allais dire, les penseurs et les acteurs autour de la culture occitane. L'idée, elle est bien, justement, entre nous, de réfléchir aux pistes, aux propositions tout à fait concrètes de la suite à donner à cet engagement.
D'accord, et concrètement, pour les citoyens lambda qui nous écoutent, si eux veulent participer, veulent amener leur pierre, il y a des moyens par pétition, par lettre, par...
Oui, on a effectivement la possibilité de faire remonter des pétitions. Il existe une commission de pétitions. Ça demande un peu d'organisation. Ça sera peut-être une des idées qui ressortira, pardon, de cette journée, j'en sais rien. Mais c'est un outil que moi j'ai déjà utilisé, enfin, ou plutôt relayé, hein, puisque c'est un outil qui est aux mains des citoyens. Dans notre région, je pense notamment avec l'aéroport d'Hendaye au Pays Basque, ce qui a permis d'ailleurs de conduire à un moratoire sur l'extension de cet aéroport. Donc on voit bien que l'outil des pétitions, c'est un vrai outil. Il faut le mettre en place, il faut beaucoup de signatures, il faut l'organiser, mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ?